France en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature, et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler tous les quatrièmes lundis de chaque mois, entre 18h et 19h30, sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Et nous sommes le 24 juin, début de l'été. Nous allons donc nous amuser à décortiquer la saison des amours. C'est l'été. Voici le temps des amours et tous les sens sont en éveil. Les animaux folâtres se baladent, se jalousent et badinent. Décidément, on est actuellement dans une saison bien bruyante. Tout semble raconter le théâtre des amours et aussi des naissances. On a l'habitude d'appeler ça la saison des amours. Mais existe-t-il vraiment une saison des amours? Et que nous disent de cela les animaux et les hormones? Entre serments et tromperies, regardons les mille et une facéties des amours, car il semble bien que les amours animales soient un rien plus libertaire qu'il ne le paraît. Mais tout d'abord, parlons des saisons. Vous vous souvenez de Germinal, Floréal, Prairial, et encore de Messidor, Thermidor, Fructidor, qui répondaient à Nivose, Pluviose, Ventose, les fameux mois du calendrier républicain, établi par Charles Gilbert Rome en septembre 1793. Les noms des mois et des jours furent conçus par le poète Fabre d'Églantine avec l'aide d'André Touin, le premier botaniste du Muséum d'Histoire Naturelle. Mais pourquoi un calendrier révolutionnaire qui collait tellement avec les saisons, avec le climat, avec le temps qui passe? Pas seulement pour un engagement révolutionnaire, mais aussi pour établir le plus scientifiquement possible le rythme du temps. Ce calendrier marque la volonté des révolutionnaires de l'époque d'adopter un système universel qui va s'appuyer sur le système décimal et scientifique, et non plus un temps qui serait lié à la royauté ou au christianisme. Et c'est le dictateur Napoléon qui va restaurer le calendrier grégorien en 1805. Ça veut donc dire que le temps est devenu une affaire scientifique. On pourrait s'étonner, considérer que le calcul du temps, des saisons, a toujours été une mesure agricole ou astronomique. Eh bien non. Le temps et les saisons, c'est d'abord une mesure sociale. D'abord rythmée par l'agriculture, puis par les fêtes religieuses. Le travail, l'organisation sociale et l'économie gouvernent le temps et les humains. Et c'est un temps dans lequel il n'y a pas de place pour l'amour. Et cependant, les fêtes nous rappellent intimement la révolution autour du soleil et la vie des animaux. Ce sont presque des intrusions dans la vie de tous les jours pour nous raconter que finalement, les fêtes païennes existent, les fêtes laïques existent, que les humains existent. Noël, par exemple. Noël dérive d'un très vieux mot, dont il ne reste plus que la racine « L » qu'on retrouve dans « Hélios » en grec, le soleil. Quant à « nos », C'est aussi une très vieille racine qui annonce l'arrivée de quelque chose de nouveau. Noël, c'est l'arrivée du nouveau soleil en décembre, le solstice d'hiver. La fin des jours qui raccourcissent et le début des jours qui vont commencer à remonter. Les jours vont maintenant grandir, la nuit reculer. Pourquoi ? Parce qu'on va vers l'été. Et l'été, le 21 juin, c'est la fête du feu. La fête qui rappelle le solstice d'été, le moment de la nuit la plus courte. Voilà que maintenant les grandes chaleurs peuvent arriver. On ne sait pas, mais elles peuvent arriver. Et les Pâques religieuses cachent bien mal qu'on y fête aussi des choses tout à fait profanes. Le lièvre, le lapin de Pâques. Le lapin de Pâques, pourquoi ? Parce que c'est le début du bouquinage des lapins et des lièvres, des amours de lapins. Et bien sûr, Pâques, c'est aussi la fête des œufs, car voilà les saisons où se reproduisent les oiseaux sous nos latitudes. En fait, c'est les tout premiers œufs, un peu comme les œufs qu'allaient chercher les hommes de l'île de Pâques. Eh bien, les citadins oublient souvent comment sont faits les œufs d'oiseaux. Alors on privilégie la poule en chocolat. Mais en fait, pendant très longtemps, d'autres oiseaux ont eu la vedette. Le merle et la grive musicienne, car ils chantent des mélodies tout à fait étonnantes. Alors, évidemment, tout cela nous signifie simplement la volonté de réussir à lancer une couvée pour ce début d'année. La grive répète son son, répète son chant. Et évidemment, tout cela a un objectif très simple, réussir grâce à cela à marquer la zone où l'animal va établir son nid. Mais ce n'est pas que ça. Le but de la grive est aussi d'attirer la femelle, aussi d'attirer tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut réussir à attirer. Car notre idée principale, évidemment, dans cette saison des amours, c'est de bien réussir à s'accoupler, réussir à s'aimer. Évidemment, les mésanges vont également faire du bruit. En élaborant bruyamment leur volonté de fonder une famille, les mésanges zinzinulent. Alors ces oiseaux se reproduisent souvent dès avril. Mais on a une seconde nichée qui va naître en juin. Les animaux vont tenter de réussir deux ou trois nichées pendant cette période de reproduction. Bon, la plupart d'entre nous connaissent très bien la maison charbonnière, celle qui est à gorge jaune parcourue d'un trait noir. Un trait noir épais chez les mâles et beaucoup plus fin chez les femelles. Les mâles chantent dans les ramures. Ce sont de petits passereaux d'une vingtaine de grammes, insectivores. Donc la reproduction commence en avril, mais les petits naissent en mai, plutôt fin mai, début juin. Si on regarde bien sur les branches, on va voir que le mâle vient au ravitaillement pour nourrir la couvée. Mais il s'est patienté jusqu'à l'arrivée de la femelle. Il semble attendre quelque chose. Qu'attend-il ? Eh bien, il attend que la femelle vienne. Car quand la femelle vient, il peut demander d'obtenir un petit câlin de plus. On voit ici que la question de l'amour va être privilégiée sur celle de la reproduction. On a plusieurs sortes de mésanges chez nous. On a par exemple la minuscule mésange à longue queue, qui forme de grands groupes en hiver. Les femelles se rassemblent et même les jeunes des nichées précédentes peuvent aider à la reproduction. Là encore, les mâles ne sont pas de reste. Et dès que la femelle passe dans le secteur, généralement, on s'arrange pour obtenir un petit câlin. La mésange nonnette est-elle un oiseau blanc et noir ? Très commune, on la trouve même en ville. Elle vient chercher des graines pour les oublier ensuite dans les garde-manger d'hiver. Elle fait un nid assez rudimentaire, en lichen et en brindille, dans une cavité plutôt à faible hauteur. Et là encore, les oisillons vont naître fin mai, début juin. Et le 21 juin à peu près, on va voir les jeunes mésanges nonnettes qui vont commencer à parcourir toutes seules pour la première fois de leur vie un territoire indépendant. Et puis il y a bien sûr la mésange bleue. La mésange bleue, c'est une mésange d'à peine 12 grammes, mais qui est tellement éclatante de couleurs qu'on pourrait la prendre pour une petite perruche. Oh, elle est tout aussi familière que les autres mésanges, mais elle s'est spécialisée sur des chenilles et même elle est capable de consommer les fameuses chenilles processionnaires. Alors, l'éclosion des oisillons va être corrélée à celle des chenilles, c'est-à-dire à peu près en mai, juin, juillet. On va retrouver cette mésange capable de consommer ces chenilles qui sont pourtant pleines de petits poils, pleines d'éléments qui sont très très peu attrayants. Savez-vous cependant que parfois la mésange est capable d'apporter autre chose, des coléoptères. Mais les petits oisillons préfèrent très très nettement consommer ces chenilles qui sont beaucoup plus douces et grasses sous la bouche.
J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles. Et les dieux sont ravis. Se transforme en phobie. Le métro sud devient purulent. Dans ses souliers, le passager abruti. À deux boîtiers qui s'expriment violemment. Il y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Superflu, il fait trop chaud, le soleil m'a basourdi. Rire sur les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui sont chiés dans le vide. Tous ces torches qui vont vivre dans leur jus. Tous ces noyés, le mec, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aiguillé. J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Les dans ma tête qui bourdonne les abeilles. J'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les vieux sont ravis. Voilà l'été, enfin l'été, toujours l'été.
De retour dans la saison des amours, nous écoutions les négresses vertes. Voilà l'été. Alors, s'il y a des oiseaux précoces, il y a aussi des oiseaux beaucoup plus tardifs. Les hérons, par exemple, vont mettre beaucoup plus de temps à avoir envie de se reproduire. Et ils attendent, en règle générale, la fin juin, la mi-mai. Ces hérons sont aussi beaucoup moins mélodieux. Le cri du héron ressemble un peu à un gargouillis de dinosaure. Héron. Voilà, c'était le cri du héron. Vous imaginez un peu quand on entend ce son si mélodieux qui passe dans l'espace. Alors c'est quelque chose d'assez logique, car évidemment les oiseaux n'ont pas appris à chanter en une seule fois et de nombreux groupes d'oiseaux ne savent pas vraiment être mélodieux. Les cigognes par exemple ne savent quasiment que claquer du bec. C'est en général en début juin que les petits hérons blancs qu'on appelle les aigrettes garzettes vont se reproduire dans leur nid monté sur un arbre. Ce petit héron va nourrir ses 3-4 oisillons de poissons, de grenouilles, d'insectes aquatiques et d'autres petites crevettes. Le héron cendré est un peu plus précoce. Il arrive dès le mois de mars-avril à commencer à édifier son nid et ensuite il va se reproduire vers fin avril, début mai. Au contraire, le héron pourpré attend les beaux jours, plutôt en juin et en juillet pour entamer sa saison de reproduction. On voit donc qu'il y a là tout un ensemble de décalages chez les animaux. Et cela évidemment en fonction des plaisirs et des envies de chacun. Est-ce vraiment la seule raison, puisque finalement ces décalages semblent nous montrer que la saison des amours est quand même quelque chose d'assez large. On est déjà rendu entre mars et juin. L'été revient avec les amours animales. Mais, chère auditrice, chère auditeur, cela n'est que l'apparence d'une saison dédiée à la reproduction. Il va falloir regarder toutes ces choses-là de beaucoup plus près. Et vous savez que nous aimons bien ça. Car pour qu'il y ait une saison des amours, il faudrait qu'il y ait une interruption des choses de la nature, pour parler poliment. Cela nous semble si familier qu'on commet souvent une faute. Celle de croire que les choses que l'on voit sont vraies. Or, mesdames, messieurs, s'il est bien une certitude scientifique, c'est que nos sens nous trompent. Eh oui, tous les matins, on voit un type à la météo qui nous dit que le jour se lève. Il va même aller plus loin puisqu'il nous précise à quelle heure le jour se lève. D'ailleurs, on peut même en faire l'expérience et aller au petit matin voir le soleil se lever. Or, c'est faux. Le jour ne se lève pas. Le soleil ne se lève jamais. Il s'agit d'une hérésie scientifique. La Terre tourne autour du soleil et pas l'inverse. Eh bien, cette vision des choses est très anthropomorphiste, c'est-à-dire qu'on la rapporte à nous-mêmes. C'est tout aussi anthropocentriste de parler d'une saison des amours. En fait, l'interruption des activités de la vie dans la nature n'existe que lorsqu'il y a alternance de saisons froides et de saisons chaudes, c'est-à-dire sous nos latitudes à nous. C'est notre latitude qui fait que les animaux vont respecter le printemps. Ils respectent moins le printemps qu'ils respectent l'hiver. Car il faut, pour cela, affronter les rigueurs d'une saison froide. Les animaux vont donc élaborer des stratégies complexes. Il va falloir résister à ces temps hivernaux et c'est cela qui va rythmer les saisons. Pendant l'hiver, il va être impossible de sérieusement penser à se reproduire. Oh, il y a bien quelques espèces animales qui vont quand même se reproduire au cœur de l'hiver. Mais en règle générale, les naissances n'auront pas lieu à ce moment-là. Il va falloir s'économiser et l'amour n'est pas une chose très économique, on dépense beaucoup d'énergie. Alors pour affronter les rigueurs de ces saisons froides, les animaux vont élaborer des stratégies spéciales. Par exemple, il y a ceux qui partent, comme les hirondelles, ou encore le coucou. Ceux-là partent parce qu'ils le peuvent. Ils gagnent à tire-d'aile des régions qui sont, on va dire, thermiquement plus accueillantes. Principalement, si on parle de l'Europe, ces oiseaux vont aller en Afrique. C'est en Afrique que ces migrateurs vont prendre leur quartier d'hiver. Prenons par exemple le milan noir. Le milan noir est un grand migrateur. C'est ce qu'on appelle un rapace, c'est-à-dire un oiseau qui mange des proies. Dans la réalité, c'est plutôt un consommateur de charognes et d'autres petites choses. Mais après que le couple ait élevé ses 2 ou 3 poussins en France, il va décider de repartir. Et pour cela, il n'attend pas. Il décide de repartir dès le début du mois d'août. Il va donc arriver en Afrique en septembre-octobre, et là, en Afrique, il va être capable de consommer des criquets principalement et autres insectes. Le milan est un oiseau très très bon voilier. Et en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a en France, par exemple, la possibilité de suivre en direct les oiseaux. Par exemple, il y a un site qui s'appelle milannoir.net, et là, on va suivre l'arrivée, le départ d'oiseaux comme Salam. Salam est un milan noir équipé d'une balise Argos. Alors, il a été équipé en juin 2011. La balise pèse environ 22 grammes. Elle est soigneusement arrimée au dos de l'oiseau grâce à un harnais. Et l'oiseau se promène. Cette année, par exemple, il n'a pas beaucoup tardé au Maroc. Il a poursuivi son voyage vers l'Europe. Il a traversé le détroit de Gibraltar le matin du 26 avril. C'est précis. Et il s'est dirigé le même jour et a atteint jusqu'à environ 40 km de Cordoba. Là, il est allé passer 4 jours pour se reposer à côté d'une usine de recyclage. Alors, c'est un bel oiseau, le milan. Hein. Il fait environ 60 cm de longueur avec une envergure de 1,60 m à peu près. Mais c'est vraiment un poids-plume. C'est un oiseau qui pèse 600 à 800 grammes. Quand on l'a sur la main, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un oiseau très léger, un gros, gros paquet de plumes. Ce milan apprécie les abords des lacs, des rivières et bien sûr les zones humides. Même si le dérangement est important, parce qu'il n'a pas trop peur des humains, il est capable même parfois d'avoir une attitude un peu parasite dans certains pays. En Inde, par exemple, il est connu pour venir voler les sandwichs ou les gâteaux des touristes. En revanche, il évite les montagnes et les grands massifs forestiers. Il chasse principalement au-dessus de l'eau et des berges, et il les survole parfois lentement à hauteur basse. Mais c'est un véritable acrobate, et il est capable de s'abaisser à quelques centimètres du sol pour attraper un criquet. Par exemple, au moment des moissons. On va voir cet oiseau qui va courir après les tracteurs, enfin voler autour des tracteurs, et lorsque les foins font partir tout un ensemble de petits criquets, de grillons et autres petits insectes qui sont délogés par le travail, eh bien le milan les attrape en plein vol, après des acrobaties étonnantes. Mais c'est aussi un charognard. Alors il arrive assez souvent qu'il poursuive les autres prédateurs, y compris les aigles hein, et les hérons par exemple, pour leur voler leur nourriture. Il pille aussi les nids de cormorans. Et il aime bien rester autour des hérons pour s'approprier leurs poissons. Il capture plutôt des petites proies vivantes qui sont capturées au sol ou en vol, notamment ces insectes. Pour le reste, c'est plutôt des proies mortes qui sont glanées sur les routes ou au sol. C'est un bon fossoyeur sur les routes. Alors c'est une espèce assez grégaire. Il est particulièrement sociable, il vit souvent en dortoir, sur des lieux d'alimentation, donc aussi sur les décharges quand il peut y être. Et il peut se regrouper avec plusieurs dizaines d'oiseaux. On dit que c'est un oiseau monogame, et ces oiseaux sont même capables de se retrouver d'une année sur l'autre. Les nids sont souvent isolés, et la femelle n'est pas très active, elle va rester souvent au nid en ne quittant pas le territoire. Mais parfois, la buse pond aussi un œuf dans le nid du milan, et elle s'occupe à ce moment-là de deux poussins différents. C'est le mâle qui s'occupe de la chasse, et jusqu'à la mi-juin, c'est lui qui va l'approvisionner tant que le petit n'est pas parti. Mais pour cela, il faut d'abord qu'il construise une structure compacte de branchages. Alors, c'est assez rare chez les rapaces pour être noté, car lui va construire en fait un nid, un vrai nid sur une fourche de grand arbre. Mais ce qui est remarquable avec le milan, c'est qu'il adore décorer son nid. Il va le garnir. Alors évidemment, il est garni de tout un ensemble de restes d'arêtes, de déchets que les petits oisillons n'ont pas consommés. Mais avant que l'oisillon soit né, notre mâle va décorer son nid de papier, de chiffon et de plastique. Et figurez-vous que près de Nantes, il y a un nid qui était orné l'an dernier, hein, cette année on ne sait pas encore, je ne suis pas retourné le voir, il était orné ce nid de grandes bandes de papier toilette. Alors ne me demandez pas où l'oiseau est allé chercher ces magnifiques décorations roses, on peut supposer qu'elles étaient dans un lieu particulier. En tout cas, ces grandes décorations de papier toilette semblaient lui plaire. Le nid est construit plutôt proche du sommet de l'arbre, et début mai, en général, les œufs sont pondus. La ponte unique va donc être souvent de 1 à 2 petits, parfois 3, hein, mais c'est assez rare. Et les jeunes vont commencer à s'envoler, en général, maintenant, fin juin. Car vous vous rappelez, dès la mi-août, notre oiseau va repartir pour son périple migratoire, retourner hiverner en Afrique. Alors ici, évidemment, les amours vont être très brefs. Mais l'oiseau ne va pas se priver de demander, de solliciter quelques copulations au fur et à mesure de son voyage. Il y a donc les oiseaux qui partent. Et puis, il y a ceux des animaux qui restent. Par exemple, le blaireau. Peu à peu, en automne, les sorties du blaireau vont être moins régulières. Et de novembre en février, il va même presque s'endormir. Son activité va diminuer. Alors, il se dissimule au plus profond de son terrier, en dormant dans une boule de mousse et d'herbe sèche. En fait, le blaireau n'hiberne pas, mais il dort davantage en hiver. Il semble que sa température baisse un peu lorsqu'il est endormi, mais pas au point de considérer qu'il s'agit d'une vraie hibernation. À la fin de l'automne, cet animal va peser plus de 3 kg de ce qu'il pesait au printemps. Alors c'est un gros mustélidé qui ressemble un petit peu au glouton, que vous connaissez peut-être un peu mieux, avec des grandes rayures noires et blanches, et un dos gris magnifique. Dans son terrier, qui est un terrier acquis depuis des générations, qui aura peut-être 10 entrées, eh bien, qui va former des petits sentiers en plus pour les atteindre, eh bien ce gros terrier est l'aboutissement du travail de plusieurs générations de blaireaux. On sait que certains terriers ont été créés il y a plusieurs siècles. Il y a dans la région nantaise des terriers qui étaient déjà notés en 1574 par Jacques Dufouilloux. C'est vous dire que les blaireaux sont casaniers. Il n'est pas rare de voir le terrier du blaireau partagé avec un renard, avec un putois ou même avec des lapins. car les blaireaux vivants, groupes familiaux de 2 à une vingtaine d'adultes. Au printemps, en se réveillant, ils vont donc commencer par faire un grand ménage. Alors je dis au printemps, mais en fait, comme ils ne s'endorment pas vraiment, ils vont commencer leur ménage à la fin février et tranquillement, ils sortiront petit à petit, pas beaucoup, jusqu'au mois de mai à peu près. Le blaireau, qui est d'un poids d'environ 12 kilos, est un animal surtout nocturne et crépusculaire. Surtout lorsqu'il est dérangé, bien sûr, car il est très prudent. Il sort de son terrier donc entre mai et août à peu près, et la première chose qu'il fait en sortant du terrier, c'est une toilette en règle. Il va se nettoyer de partout. Dès l'été, quand les jeunes sont nés, ils vont commencer à sortir, même en plein jour, des fois pour aller chercher des aliments, parce que les jeunes sont évidemment un peu plus turbulents. L'animal va déposer ses crottes dans des trous non refermés, qu'on appelle des pots, et tous les animaux viennent, dans ces mêmes pots, déposer leurs crottes pour bien montrer qu'ils vivent ensemble dans ce grand groupe familial. Et on peut trouver donc aux alentours du terrier des latrines formées de plusieurs pots. Évidemment, le blaireau, qui est un grand consommateur de lombrics, va présenter des fois des crottes très très molles. Mais il mange aussi bien... Alors, quand je dis consommateur de lombrics, il faut penser qu'un blaireau va consommer jusqu'à 100 kg par an de lombrics. C'est quand même quelque chose. Mais il est aussi capable de manger des taupes, des petits rongeurs, des champignons, des plantes et des œufs d'oiseaux pour les oiseaux qui nichent à terre. Des fruits, des graines, des nids, de guêpes par exemple. Il adore chasser les larves de guêpes. Un chercheur a d'ailleurs trouvé plus de 160 guêpes dans une simple crotte de blaireau. En fait, il y a deux exigences qui vont gouverner la saison des amours des blaireaux, comme pour beaucoup d'animaux qui restent ici. Échapper aux mauvaises conditions, surtout si on ne part pas, et faire coïncider les naissances avec la plus grande disponibilité des ressources. Alors, ce n'est pas si simple, parce qu'évidemment, il faut attendre que les plantes et les ressources puissent atteindre leur meilleur, leur optimum.
Chez le blaireau, la reproduction se déroule principalement du mois de février au mois de mars. Mais la femelle est une dégourdie. Une femelle peut s'accoupler avec plusieurs mâles d'un même clan, sans s'embarrasser de hiérarchie. En fait, la femelle peut être réceptive à plusieurs périodes de l'année et les amours se prolongent parfois jusqu'à la fin de l'été. Et il existe cette stratégie originale de reproduction qu'on nomme ovo-implantation différée. Car, en féministe convaincue, la femelle décide d'avoir ou non des petits et quand elle les aura. Après la copulation, la femelle n'est pas immédiatement enceinte. L'ovule fécondé reste en attente pendant parfois plus de 10 mois avant de se fixer dans l'utérus. Si les amours des blaireaux commencent en été, c'est à la fin du printemps suivant qu'auront lieu les naissances. Petit blaireau va naître avec ses frères et sœurs, le plus souvent vers les mois de mars. Ils sont allaités pendant 3 mois et commencent à sortir du terrier familial vers l'âge de 2 mois, fin avril, début mai.
Dites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas loin de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore. Votre voix dans son caressant, qu'il est murmurant, frémissant, me berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots si près, je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies s'apaisit, si se console d'un baiser. Du corps, on guérit la blessure par un serment qui leur assure. Parlez-moi d'amour, redites-moi de choses tendres. Va, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime.
Nous revoilà après cette chanson de Lucienne Boyer de 1930, Parlez-moi d'amour. Nous sommes toujours sur 89.4, Radio Libertaire, la radio rebelle et sans publicité. Et la saison d'amour est donc bien marquée dans nos régions. Mais elle n'existe pas cette saison dès que les conditions sont bonnes. L'un des oiseaux les plus tardifs chez nous, c'est très probablement le loriot d'Europe, dont le chant mélodieux ne commence à poindre que fin juillet. C'est un oiseau magnifique, au plumage jaune et aux ailes noires, et on le voit très peu. Car il se cache dans les forêts les plus denses. En revanche, on l'entend très bien. Et son chant est reconnaissable et très puissant. Il s'installe très haut dans un arbre, construisant avec art un nid tissé et solide. Et c'est là qu'il va réussir ou non à séduire une femelle. Et il faut faire vite, parce qu'il va falloir aussi réussir à élever deux ou trois oisillons. Notez bien que voilà un oiseau qui va passer près d'un mois d'amour avant de commencer à se reproduire. D'ailleurs, ne serait-il pas temps de parler d'amour ? A-t-on raison de nommer amour, ces périodes où les animaux s'accouplent? Non, tout le monde le sait, il s'agirait plutôt d'un instinct de reproduction. Alors, certes, la recherche d'un partenaire va conduire à la reproduction. La plupart des espèces vont réussir à se reproduire et à élever des nichés. Si les animaux élaborent une stratégie de coïncidence spatio-temporelle avec les ressources, c'est bien évidemment pour élever des petits. Pourtant, ce n'est pas aussi simplement que les choses commencent. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que l'instinct de reproduction n'existe pas. L'instinct est un mot qui sert à expliquer quelque chose sans rien dire. On colle un mot et on croit qu'on a tout expliqué. C'est assez facile de désigner avec ce mot quelque chose d'inconnu, quelque chose d'automatique. Grossièrement, c'est un peu comme si un déclencheur provoquait obligatoirement une réponse comportementale. Alors cela a un espèce de côté animal, instinctif. On parle ainsi d'instinct maternel, d'instinct de survie. Mais tout ça, ça ne veut rien dire, car tout ce que nous en sommes, nous, les êtres vivants, nous sommes simplement réceptifs à des phénomènes particuliers. Et l'un des phénomènes importants que relève la biologie, c'est qu'il faut d'abord être intéressé par un partenaire. Et s'intéresser à un partenaire, c'est aussi demander son consentement. Ce qui signifie que l'une des choses les plus importantes de la vie biologique, ça va être l'interaction. Le fait d'interagir avec quelqu'un, le fait de ne pas être tout seul et de commencer à parler ensemble. C'est aussi là l'objet de la cour, de la parade des animaux. Si les animaux élaborent des chants, des parades aussi compliquées, c'est que quelque chose les bouleverse. Et à ce moment-là, l'évolution va faire le reste. Alors évidemment, l'amour, c'est peut-être un grand mot. Regardons d'un peu plus près. Tout d'abord, il y a un bouillonnement hormonal qui rend les individus sensibles à la présence de l'autre. À un moment donné, l'autre va devenir tellement important que tous nos sens vont rester en éveil derrière. Et on peut le poursuivre, le suivre, le regarder, l'observer. On va passer beaucoup de temps à tout un ensemble de phénomènes qui vont faire qu'on va chercher sa présence. Alors évidemment, on peut résumer ça en biologie par un élément simple. La testostérone qui joue ici un rôle fondamental. Car évidemment, elle exerce une pression sur les organes sensoriels. Cette testostérone, c'est l'hormone qui va provoquer le désir et la recherche du désir. Il n'y a pas là de saison particulière. C'est au contraire le flash, la rencontre d'avec quelqu'un d'autre, qui va déclencher cela. Et ça peut aller jusqu'à noyer totalement le cerveau sous ce déclenchement. Bon, évidemment, ce système hormonal n'a rien à voir avec un instinct. Car c'est là qu'interviennent les phéromones. Alors les phéromones, c'est quelque chose d'un petit peu subtil, d'un petit peu particulier. Ce sont des messagers biochimiques. Les phéromones agissent sur les comportements sexuels, mais aussi sur les comportements sociaux. Le mot phéromone vient de mot grec, phéron, qui veut dire transformer, et hormon, qui veut dire exciter. Il s'agit donc de substances qui vont transférer, transporter des excitations. Regardons les fourmis. Eh bien, les fourmis, elles utilisent les phéromones d'alarme pour déclencher une réponse immédiate et violente quand la colonie est attaquée. Ici, la phéromone a un rôle, en quelque sorte, d'appel, de détresse. Les papillons vont attirer leurs partenaires sur des kilomètres et des kilomètres en émettant des phéromones sexuelles. Quant aux lapins, les lapins vont libérer des phéromones de dispersion pour démarquer leur zone de territoire et pour disperser les membres du groupe dès qu'une menace est présente. Les lapins vont tout de suite sentir cette phéromone et s'écarter les uns des autres. Et puis il y a les fameuses phéromones sexuelles. Eh bien, elles jouent un rôle identique dans toutes les espèces animales. Les phéromones sexuelles vont entraîner une excitation sexuelle et l'expression de cette excitation en direction d'un partenaire potentiel. La phéromone est émise pour attirer l'autre et en quelque sorte pour voir s'il est possible qu'un consentement mutuel s'élabore. Seulement voilà, est-ce que vous savez quelle odeur ça a une phéromone ? Eh bien non, parce que ces odeurs sont insensibles par le cerveau. Les phéromones, nous ne sommes pas capables de reconnaître les odeurs. Nous les reconnaissons, elles vont bien exciter des zones particulières, mais ces zones particulières sont excitées à travers un organe qui va en quelque sorte déconnecter notre cerveau. Cet organe, je vous le donne en mille, il s'appelle l'organe voméronasal. Voméronasal parce qu'il est situé au-dessus d'un os qu'on appelle le vomer, en quelque sorte c'est à côté de votre palais, au-dessus de votre palais. Ah, vous en avez un organe voméronasal, rassurez-vous. Et pourtant, comme la plupart des animaux, vous n'êtes pas capable de sentir les phéromones, car les phéromones n'ont aucune odeur. Ce sont bien des excitants chimiques, des excitants odoriférants, mais avec des odeurs non perceptibles aussi simplement par un cerveau associatif. Donc à quoi ça peut servir d'avoir des odeurs qui servent à quelque chose comme nous exciter simplement nous ? Eh bien, ces phéromones, une fois à l'intérieur des voies nasales, ne vont pas emprunter le chemin olfactif comme le font les odeurs traditionnelles. Mais elles vont emprunter un chemin qui mène à l'organe voméronasal, où là elles vont être en quelque sorte triées. Cet organe voméronasal, c'est une petite poche qui est percée d'un trou minuscule. Et ce trou va directement relier notre organe voméronasal à l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est un espèce de vieux cerveau, très archaïque, très ancien, qui est situé au-dessous du cerveau. Un cerveau qui n'a pas vraiment de capacité d'analyse. Ce cerveau, c'est celui du siège des émotions, mais aussi des comportements sexuels. Et c'est à ce niveau que l'hypothalamus va jouer. Alors c'est un peu pourquoi, quand on est amoureux, on a en quelque sorte deux cerveaux. Un cerveau qui nous guide à être ébloui par l'objet de notre amour, et puis un autre cerveau qui nous dit peut-être que c'est pas raisonnable. Si, et des physiologistes l'ont fait, si on détruit l'organe voméronasal chez les animaux, eh bien l'animal ne va plus montrer aucun intérêt pour les activités sexuelles. La fonction de cet organe, bien qu'elle est souvent réduite par rapport aux autres animaux, n'a été découverte chez l'homme qu'en 1994. En fait, tout cela est associé à un système qu'on appelle le système limbique ou encore cerveau primitif. C'est ce que vous lisez parfois quand, quand on vous dit qu'il y a un cerveau primitif qui conduit nos impulsions basiques, un cerveau reptilien. Souvent, on pourrait croire que ce cerveau reptilien, on ne s'en sert pas. Il y a des gens qui vous diront « oui, on ne se sert que 10% de notre cerveau, etc. » Bien sûr, ce cerveau-là, on ne s'en sert pas de la même manière que les autres. Car il régit notre conscience de l'environnement et la façon dont nous allons réagir par rapport à notre environnement, de manière un petit peu automatique. Mais il réagit aussi notre comportement sexuel. Alors évidemment, ce système limbique est directement le système de l'amour, le système du comportement amoureux. En tout cas, des premières émotions qui vont complètement bouleverser les possibilités de notre corps.
En 1991, Wayne Potts et ses collègues de l'Université de Floride ont découvert que les souris préfèrent partager leur nid avec leurs apparentés qui, par définition, sont génétiquement plus proches. Mais ces mêmes chercheurs ont démontré que les souris choisissent au contraire, des partenaires sexuels qui leur sont génétiquement différents. Elles perçoivent ces degrés de parenté par l'odeur de leur urine, hein, mais oui, et qui portent des marques odorantes qui leur fournissent ces informations. La différence génétique joue ainsi un rôle aphrodisiaque. De retour sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie dans une émission faite pour tous les aventuriers et aventurières de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle, science en liberté.
Il s'agissait de Summertime, l'excellente Janis Joplin émue par l'été. Alors donc, nous avons vu qu'un individu va reconnaître son partenaire et qu'au fur et à mesure que son partenaire devient quelque chose qui l'intéresse, quelqu'un qui l'intéresse, le désir va s'accroître de manière irréversible. En fait, Tout dépend maintenant de l'accord de l'autre. Dès que le consentement est saisi, dès qu'on sent que quelque chose est possible, eh bien, on va commencer à partir de là à s'apprécier. Et ça va monter de manière de plus en plus fort. On peut être frappé par ce phénomène. On est amoureux sans cause. Et pourtant, l'individu aimé est le plus beau, le plus magnifique. Car une émotion incroyable vient de se construire. Eh bien, c'est cela, l'amour. Une émotion non raisonnable qui nous entraîne à désirer l'autre. En effet, il n'y a pas besoin d'avoir une raison pour aimer. Bien au contraire, si on commence à donner des raisons, c'est que l'amour est beaucoup moins fort. Mais pourquoi est-on attiré par l'autre? Qu'est-ce qui nous entraîne à ce désir irréversible? Eh bien, pourquoi? Parce que l'individu est différent. Alors on a tous cette petite idée dans la tête. Oui, je l'aime parce que lui, il est différent des autres. Mais est-on capable d'expliquer cette différence? Eh bien, je vous rassure, cette différence est biologique. En effet, je ne sais pas si ça vous rassure au demeurant, mais en tout cas, effectivement, l'indifférence va être ici en jeu. C'est un certain exotisme qui va construire la neurobiologie de nos amours. Un ensemble de gènes qui est à l'origine de la reconnaissance à travers le système immunitaire de ses propres tissus et de ceux provenant de corps étrangers. Le partenaire devient attractif parce qu'il possède un système immunitaire compatible avec sien, avec le mien, avec celui le vôtre, mais différent, suffisamment différent, ce système pour vous intéresser. Le complexe majeur d'histocompatibilité, ou MHC, qui est aussi appelé système HLA, ça veut dire Human Leukocyte Antigen, chez l'être humain, a été une découverte majeure qui a permis de recevoir le prix Nobel en 1980. En fait, ça signifie que les descendants vont pouvoir hériter d'un système mixte encore plus performant que le précédent. Il y a en quelque sorte une espèce de bataille entre les parasites, les virus et nous, qui vont être capables de muter. Or, les animaux, les plantes, etc., elles ne vont pas muter aussi vite. En revanche, le système de transmission vers les descendants peut induire une variation énorme. La production de cette variation va permettre d'échapper en quelque sorte à cette transmission héréditaire. Ça renforce le complexe immunitaire, ce qu'on appelle donc le complexe majeur d'histocompatibilité. Alors la théorie qui domine en immunologie a longtemps été celle de la reconnaissance du soi et du non-soi par un système immunitaire adaptatif. Les individus étaient plus ou moins adaptés et tout était une question de récepteurs chimiques. On a découvert des cytokines, des chimiokines, etc., des sous-types, des marqueurs. Mais de nos jours, la multiplication de tous ces sous-types et marqueurs cellulaires rend très très difficile d'avoir une vue d'ensemble du domaine. Et l'immunité, l'immunologie, est un domaine qui est devenu très complexe en biologie. Pourtant, une chose est simple et sûre. Le système immunitaire est un ensemble relativement simple qui fonctionne d'une manière très complexe. Il y a très peu de gènes qui sont en jeu, mais c'est surtout dans les conditions dans lesquelles les antigènes vont être perçus, qui vont déterminer une réponse immunitaire qui sera développée. Alors ça marche évidemment pas toujours bien. Par exemple, lorsque vous êtes allergique, eh bien c'est ce système qui fonctionne mal. Il fonctionne mal à des tissus qui ne vous concernent pas et qui sont en général les systèmes sexuels des plantes. Car il faut se rappeler, le pollen, c'est en quelque sorte le spermatozoïde des plantes. Il s'agit toujours d'un rapport à la sexualité. Et les êtres vivants se reconnaissent entre eux en reconnaissant les particularités de ce complexe majeur d'histocompatibilité de chacun et des autres. Et nous savons si l'autre montre ou non un système compatible. Et évidemment, s'il n'est pas compatible, ça va nous inquiéter. Ou si au contraire, le système est compatible mais différent, ça va nous rassurer. Mais évidemment, il y a encore beaucoup plus que ça. Vous vous souvenez? Les phéromones. Nous sommes tous spontanément émetteurs et récepteurs de phéromones, et si vous êtes attentif et que vous regardez passer certaines personnes, vous sentirez plus ou moins adroitement à quel point elles développent des phéromones ou au contraire elles les cachent. Ça se reconnaît tout de suite quelqu'un qui est amoureux. Alors les chercheurs pensent depuis très longtemps que les humains communiquent par des phéromones. Mais il reste à déterminer de quelle façon ces phéromones sont produites et comment elles peuvent être détectées, notamment à grande distance. Alors, pour cela, on peut faire appel à des petits animaux. Par exemple, le putois est un animal bien connu pour ses odeurs. Si on regarde le comportement de ce petit mustélidé d'un kilo, qui est très proche du furet, eh bien, on va s'apercevoir qu'on a affaire à un animal qui passe sa vie à travers les odeurs. Alors les odeurs vont évidemment pour lui avoir un rôle important pour reconnaître son biotope, reconnaître ce qu'il faut manger. Mais il va faire aussi, grâce à ces odeurs, il va pouvoir mettre en place tout un système, tout un codage de relations sexuelles. On se demandait souvent comment pouvait s'élaborer la préférence sexuelle. En effet, un putois amoureux va copuler plutôt avec des animaux qui sont aux gènes très étrangers par rapport à lui. Il peut même préférer un furet ou un vison. On dit que les putois sont frappés par les animaux rares. On appelle ça l'attrait du phénotype rare. Voilà des animaux qui vont chercher des individus très exotiques, très rares. Oui, mais pas si exotiques que ça. Car en même temps, quand on analyse les relations du putois, on s'aperçoit qu'il refuse les partenaires qui sont trop exotiques. Les putois trop étrangers ne lui plaisent pas. Comme si il refusait d'épouser des putois trop éloignés. En fait, ce que fait notre putois, c'est refuser des gènes quand ils sont incompatibles. Les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité, le fameux MHC, donnent à chaque individu une odeur unique qui peut facilement être détectée. Les gènes du MHC jouent un rôle très important dans la sélection du partenaire sexuel. Les putois consanguins, identiques, vont en général préférer l'odeur de putois étroitement apparentée. On s'entend mieux, on se bat moins quand on est apparenté. Mais dès que les animaux deviennent matures, et qu'il n'est plus du tout question de cela, là, les putois vont montrer une préférence marquée pour s'accoupler avec des putois étrangers. Des putois dont les gènes MHC sont les plus différents des leurs, tout en restant compatibles. Alors on voit qu'il y a une très grande relation entre l'immunité et l'amour. Car l'amour va nous permettre d'avoir une plus grande immunité. On sait, quand on est amoureux, tout est possible. Et en même temps, l'immunité va permettre l'amour. En fait, l'amour est d'une importance capitale pour reconnaître l'autre comme étant son propre partenaire, comme étant un partenaire possible, et pour lui demander le consentement adéquat à fabriquer des petites relations ensemble. Et évidemment, le plaisir en découle. Et il n'y a aucune raison à l'attrait. L'autre ne nous plaît pas parce qu'il possède quelque chose. Voilà, une relation gratuite. Enfin, presque gratuite, parce que ce qui nous plaît chez l'autre, c'est qu'il est différent. Ah, il faut imaginer que toute cette sensibilité, à commencer avec la cellule, va jusqu'aux organes et ça dérive d'un mécanisme biologique très ancien qui existe chez les protistes, chez les plantes, chez les champignons et chez les animaux, la sexualité. Et que cette sexualité, ce mécanisme, va gouverner notre raisonnement, va gouverner nos émotions. Tout ça pour nous entraîner à une seule chose, trouver un partenaire qui nous plaise. Mais il faut gagner sa confiance, obtenir son consentement. Et c'est à ça que servent ces parades, ces chants, ces odeurs. Nous sommes partis d'un bouleversement hormonal avec une émotion qui s'est constituée, mais qui va demander un accord de l'autre, un consentement du partenaire. Alors pour obtenir ce consentement, on peut tricher un peu en l'amadouant, car tous les organes sensoriels vont être mis à contribution. La vue, l'ouïe, l'odorat. Les animaux dansent, chantent et demandent à l'autre de tomber lui aussi en amour. L'émotion est à son comble et cela peut entraîner des copulations et des orgasmes qui vont noyer le cerveau sous d'autres molécules, les endorphines, celles qui vont donner du plaisir et de la détente, une relaxation. Et cette relaxation va faire intervenir encore une nouvelle substance chimique, l'ocytocine. L'ocytocine qui va jouer un rôle de stabilisateur des émotions. Les comportements vont être apaisés sur du plus long terme. Les partenaires vont entrer dans de la tendresse. Ils deviennent attachés l'un à l'autre. Et si cela se prolonge, les partenaires vont envisager, pourquoi pas, la constitution d'une progéniture. Voilà, on peut donc parler d'amour chez les animaux. Et ça commence bien avant que les animaux ne pensent même à effectuer les premiers préparatifs de la reproduction. On s'aperçoit que tout cela est une série d'éléments qui vont fabriquer des émotions et tout cela va aboutir à ce qu'on appelle les amours. Rien d'instinctif, simplement le fait que l'autre devient attractif, que la relation avec l'autre est la chose qui va compter le plus au monde. Et c'est pas n'importe quoi que de penser que ce qui compte le plus au monde, c'est la relation avec l'autre. C'est pour cela que les oiseaux vont s'exercer à ces chorégraphies inimaginables. C'est pour cela qu'on va entendre les baleines chanter des aubades. C'est pour cela que les oiseaux vont montrer des performances aériennes. Les chevreuils vont crier, les baleines vont s'époumoner. Et même les putois deviennent des ténors des odeurs, diffusant des parfums délicats, délicats aux narines des femelles de putois, construisant des symphonies de senteurs, juste pour obtenir que la femelle s'intéresse à leur amour. Car pour l'amour, même les grenouilles sont capables de devenir des troubadours.
Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Et la terre tourne, tourne, tourne. Tourne pas rond mais je ne peux rien y faire. Rien de plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent. Autour du pot de ce monde à refaire. Dam dam di dam. Di da dam dam di dam di dam. Di dam dam di dam. Le monde va mal, je m'en amuse. Insolent, impertinent. Quand nos dictateurs abusent, j'en fais une chanson, ça fait rire les gens. De toute façon, que puis-je y faire? Avec mes coups de gueule, mes calembours. Ni politicien, ni militaire, moi, je ne suis qu'un troubadour. De toute façon, ce monde n'est pas le mien. J'écris des chansons pour fuir cette terre. Au lieu de vivre aujourd'hui, je préfère chanter en attendant demain. Chanter en attendant demain. Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Et la terre tourne, tourne, tourne. Tourne pas rond mais je ne peux rien y faire. Rien de plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent. Autour du pot de ce monde à refaire. Dam dam di dam. Di da dam dam di dam. Di dam di dam dam di dam. Di da dam dam di dam. Quand je me mets à chanter l'amour, on me dit comment tu oses souffler les pétales d'une rose. Alors qu'il y a dans ce monde tous ces morts. Et si je me mets à chanter la guerre aux armes citoyens, en tonnant des slogans révolutionnaires, on sait comment ça se termine à la fin. De toute façon ce monde n'est pas le mien. J'écris des chansons pour fuir cette terre. Au lieu de vivre aujourd'hui je préfère chanter en attendant demain. Chanter en attendant demain. Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Et la terre tourne, tourne, tourne. Tourne pas rond mais je ne peux rien y faire. Rien de plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent. Autour du pot de ce monde à refaire. Dam dam di dam. Di da dam dam di dam. Di dam di dam dam di dam. Di da dam dam di dam. Et un simple troubadour, sans voix ni raison ni maison. Même si je sais qu'un jour je ne vous chanterai plus mes chansons. Même si je sais que ce monde n'est pas le mien, que même mes chansons ne peuvent rien y faire. Je sais qu'aujourd'hui je préfère chanter pour un autre demain. Chanter pour un autre demain. Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Et la terre tourne, tourne, tourne. Tourne pas rond mais je ne peux rien y faire. Rien plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent. Autour du pot de ce monde à refaire. Autour du pot de ce monde à refaire. Autour du pot de ce monde à refaire. Dam di dam. Di da dam dam di dam. Di dam di dam dam di dam. Di da dam dam di dam. Di dam di dam dam.
Voilà, nous écoutions Zep, les troubadours. Ouvrons maintenant, comme à notre habitude, les recherches du mois. Ce mois-ci, nous allons nous attarder sur un travail de recherche concernant les amours d'un petit oiseau américain, la paruline masquée à gorge jaune. Nous voilà en présence d'un oiseau tout à fait étonnant.
Une publication de Bollmer et Hall en 2012, Social and Extrapair Mating in Relation to Major Histocompatibility Complex Variation in Common Yellowthroats dans Proceeding Royal Society. On pense généralement que les femelles des oiseaux cherchent à acquérir des gènes de meilleure qualité pour leur progéniture en s'accouplant avec notamment les mâles les meilleurs. Mais en fait, ici, les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité ou MHC jouent un rôle essentiel dans l'immunité adaptative et plusieurs études ont porté sur le choix du partenaire féminin par rapport à la variation du MHC. Chez la paruline masquée à gorge jaune, les femelles préfèrent les mâles qui ont de plus grands masques faciaux noirs, un ornement associé à la variation du complexe majeur d'histocompatibilité. En testant les animaux, il a été découvert que les habitudes d'accouplement étaient en corrélation directe avec la diversité MHC. Et en revanche, en utilisant la pyrosequencing des descendants, les chercheurs ont découvert que la présence de jeunes issus de copulations adultérines n'était pas liée à la diversité du MHC du nouveau mâle, mais révélait juste des aventures passagères. En fait, Les mâles qui sont choisis en dehors du couple par une femelle adultérine ne diffèrent pas de la diversité globale des mâles cocus. Donc, chez les parulines à gorge jaune, la diversité du complexe majeur d'histocompatibilité induit les copulations et la formation des couples à long terme, alors que le choix du cocufiage en dépend beaucoup moins et paraît plus récréatif. Il est possible que la spontanéité de ces copulations hors couple puisse limiter la capacité des femelles et des mâles à évaluer la variation du MHC de partenaire provisoire. Au contraire, l'accouplement à long terme est plus fondé sur la qualité du MHC, bien que d'autres éléments comme les ornements et la taille du masque peuvent jouer un rôle d'indicateur.
Décidément, les parulines nous apprennent bien des choses. Mais les ours amoureux aussi, et voilà l'anecdote, l'indiscrétion du jour. Car les ours blancs sont de grands voyageurs. À plus de 500 km de la banquise du Groenland, les ours blancs peuvent se balader. En fait, un ours blanc a été tué en 2012. Il a été tué immédiatement en arrivant devant une foule de 60 personnes à peu près. Les autorités ont été très étonnées de voir un animal qui était si tranquillement arrivé à la nage. Depuis le Groenland jusqu'en Islande. Alors, il s'agissait évidemment de se poser la question s'il était possible de faire autrement, mais c'était difficile. Imaginez un ours blanc qui arrive dans la Skagi péninsule du nord de l'Islande et qui aurait été supposé être capturé vivant. Ça avait déjà été tenté en 2008 quand un ours avait fait tout ce trajet à la nage. Mais en fait, ça a été trop compliqué parce qu'il fallait déménager tout le matériel nécessaire et l'ours, lui, pendant ce temps, il était en train de se promener en pleine ville. Bref, l'ours qui cherchait l'amour l'a cherché vraiment trop loin pour que cela soit possible et pour que cela puisse lui être permis. Un ours s'est perdu du Groenland en Islande. Ma blonde est partie, nous écoutions Bro Frère. En effet, les blondes ne restent pas toujours là où on voudrait qu'elles soient.
Nous sommes, vous êtes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans publicité, et dans une émission faite pour les cortiquets du bulbe, Science en Liberté.
Car la saison des amours n'est plus ce qu'elle était, nous parlons du temps des amours, mais il semble bien qu'il n'existe pas vraiment une saison des amours, que les ours blancs peuvent franchir des kilomètres pour trouver leur belle, et que les animaux ou que les amours animales soient beaucoup plus libertaires qu'il ne le paraît. Car tout d'abord, l'amour des animaux connaît bien des espiègleries entre système immunitaire et décisions sexuelles. Il faut se dépêcher de prendre des décisions. Et tous les éléments immédiats de comparaison dont chacun dispose permettent de choisir le partenaire. Mais il y a une ambiguïté de cette préméditation sexuelle, car le mâle qui courtise reste un don juan séduisant. Mais compter fleurette devient parfois une activité perverse quand c'est la femelle qui s'en charge et on lui assigne alors tous les qualificatifs les plus fripons. Pourtant, toutes les femelles en biologie ont parfois intérêt à multiplier les copulations et à provoquer les rencontres. Les lionnes, par exemple, vont inciter les mâles à renouveler leurs performances et leur invitation se fait insistante. Une femelle de lionne peut demander à un mâle de recommencer jusqu'à 20 fois et pendant plus de 5 jours le geste amoureux. Enfin, j'appelle ça un geste. Les lionnes ne se contentent pas de réclamer assidûment les attentions d'un mâle. Elles admettent même d'augmenter le nombre de leurs partenaires si un mâle est trop feignant pour elles. Alors évidemment, on appelle cela la polygamie, car la polygamie, c'est ce qui consiste en plusieurs unions. On dit polygyne lorsque c'est un mâle qui s'attribue plusieurs femelles, et polyandre lorsque c'est une femelle qui convole avec plusieurs mâles. Bon, la polygynie est une forme très répandue de sexualité qui semble bien satisfaire aux désirs des mâles prétendants. Mais réunir plusieurs femelles autour d'un seul mâle, d'un seul coq, ça permet de construire une espèce de polygynie d'apparence. Souvent, cette polygynie est associée à un grand dimorphisme sexuel, comme si les couleurs du coq avaient la vertu de solidement maintenir son harem. La polyandrie, par contre, est souvent considérée comme une forme d'infidélité. Vous voyez, les mots sont très subjectifs ici, là encore très idéologiques. Pourtant, la femelle peut chercher à obtenir plusieurs mâles pour réussir à se féconder, ou pas se féconder d'ailleurs. Et cette polyandrie constitue une activité beaucoup plus difficile à expliquer d'un point de vue adaptatif. Car si les mâles peuvent augmenter leur performance reproductrice en multipliant les partenaires, les femelles ne le devraient pas d'après la théorie néo-darwinienne. Les femelles ne peuvent pas accroître leur progéniture, même si elles s'accouplent avec plusieurs partenaires. Donc leur stratégie devrait reposer sur la fameuse sélection des bons gènes. Seulement voilà, il semble bien que même les femelles de chiens de prairie n'écoutent pas les chercheurs et continuent de préférer à copuler avec plusieurs mâles à la fois. Ce phénomène est en fait connu sous le nom de monogamie séquentielle et la plupart des animaux y sacrifient. Le but est de changer de partenaire tout en assumant parfois la vie d'un couple monogame. C'est-à-dire qu'on va être polygyne, mais à la suite, les divorces vont avoir lieu. Alors, les femelles ont une monogamie parfois difficile. Quand on regarde les oiseaux, on s'aperçoit que cette monogamie, qui était considérée comme une règle chez les mésanges, chez tous les oiseaux, on considérait que 90% des oiseaux étaient monogames, eh bien, ne fonctionne pas. La progéniture des couples apparemment monogames était en fait fécondée par de multiples mâles. Les accouplements en dehors du couple se déroulent tellement couramment que la quasi-totalité des espèces y concourt. Très peu d'espèces y échappent, et cela depuis les insectes jusqu'aux primates. Il faut donc se rappeler que toutes les études soulignent que les accouplements en dehors d'un couple monogame sont finalement, traditionnellement, le produit d'une stratégie efficace et le plus souvent une stratégie des femelles. Par exemple, chez le chevalier grivelé, 10% des pontes sont fécondées par un père différent du mâle accouplé. Et bien entendu, ce passage va encore changer de saison en saison, puisque selon le mois, la femelle et le mâle vont changer l'un de l'autre. Même le gardiennage des mâles ne va pas interdire aux femelles d'aller voir ailleurs. Ça ne parvient qu'à réduire les infidélités. D'ailleurs, infidélité, c'est un vocable étonnamment moraliste, car en biologie, on s'aperçoit bien que les animaux vont copuler avec ceux qu'ils aiment et que cet amour peut se construire sur des périodes très courtes ou très longues. De nombreux chercheurs vont commencer maintenant à substituer le terme beaucoup plus neutre de kleptogamie. On parle donc d'accouplement kleptogame lorsque on voit que les mâles et les femelles peuvent copuler avec des individus différents. Seulement voilà, le mécanisme néo-darwinien nous dit qu'il faudrait que les animaux aillent chercher des bons gènes. C'est la pêche aux bons gènes que les femelles devraient faire. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. le plus souvent, le mâle se retrouve à entretenir des nichées ou des portées dont il n'a assuré qu'une paternité très partielle. Et donc, on va être obligé de parler de choix cryptiques. Ou si vous préférez, il arrive fortement que les animaux puissent changer de partenaire sexuel en cours ou avant la reproduction. Ainsi, même si le coq est un crâneur, les poules domestiques vont rejeter après l'acte sexuel le sperme qu'il a inséminé dans leur tractus génital. Et elles vont choisir le coq qui leur plaît. De la même manière, chez les grenouilles vertes par exemple, elles vont tout simplement avoir des pontes plus petites quand elles copulent avec un mâle non désiré, alors que si c'est un mâle qu'elles aiment bien, évidemment, elles seront beaucoup plus disertes et elles auront plus de descendants. Les espiègleries amoureuses et les animaux montrent que tout ça n'est pas fait que pour se reproduire. Il y a des tricheries, des tromperies, des couples à trois et autres amours multiples qui existent chez presque toutes les espèces.
My man ain't acting right. He stays out late at night, and still he says he loves no one. To do every woman in my fix, oh, to feel the too, 'cause I love my man better than I love myself. And if he don't have me, he won't have nobody else. My man got teeth like a lighthouse on the sea. Oh, my man got teeth like a lighthouse on the sea. Time he smiles, he throws them lights on me. His voice sounds like chimes, I mean the organ kind. Oh, his voice sounds like chimes, I mean the organ kind. And every time he speaks, his music is my traveling mind.
C'était une chanson interprétée par Colette Magny, Any Woman's Blues. De retour sur les mille et une bizarreries des amours animales, car quand on cherche à séduire, les animaux n'hésitent guère et ont toutes les excentricités. Alors, les fiançailles ne sont pas des épousailles, mais les animaux s'avèrent bien plus libertaires et adoptent plus volontiers des amours libres. Et s'il existe des jalousies, des bagarres à long terme, c'est bien plutôt la liberté qui l'emporte. Chez beaucoup d'espèces, les femelles exercent leur choix aussi librement que les mâles. Et donc, le mâle peut se retrouver à entretenir une nichée dont il n'a assuré qu'une paternité partielle. Par exemple, chez la fauvette bleue à gorge noire, les tricheries n'atteignent que 15%. Mais c'est déjà ça, c'est-à-dire que beaucoup d'animaux vont se retrouver à élever des animaux différents. En fait, l'amour est ici quelque chose qui va guider les pas. Et notre femelle peut très bien copuler avec un autre mâle, même sans avoir de descendants, car l'objectif n'a rien à voir avec un instinct reproductif. Dans le monde animal, il existe des mâles originaux qui, pour plaire à leur dulcinée, vont leur octroyer même quelques avantages en nature, de la nourriture, de l'abri. Par exemple, des cadeaux de fiançailles, car il paraît que les femelles préfèrent parfois de vrais présents à la seule qualité du partenaire. Alors, on considère souvent que cette offrande nuptiale indique un début d'investissement parental du mâle, mais parfois c'est bien le seul investissement que le mâle fasse. Sa fonction première donc de ce cadeau paraît plus immédiate. Elle correspond plutôt à une tactique pour apaiser ou pour attirer la femelle. Car quand il s'agit de compter fleurettes, les beaux discours ne suffisent pas toujours. Et le cadeau nuptial présente cet avantage particulier qu'il est à la fois un critère permettant la sélection pour les femelles et un moyen de plaire. Dans certains cas, le cadeau est même absolument nécessaire. Regardons l'art de faire vibrer d'amour les femelles.
Et oui, en effet, c'est remarquable. Les araignées. Alors, en effet, les araignées femelles, exhibant une taille très supérieure aux mâles, oublieraient vite l'invitation amoureuse pour quérir une dotation alimentaire plus conséquente. Le mâle cherche alors comment attirer l'attention de la femelle sans prendre le risque de devenir une proie. L'apisore est une araignée des jardins dont le mâle est 4 fois plus petit que la femelle. Chez ce prédateur redoutable, le mâle enveloppe une petite proie dans un cocon de soie et l'emmène avec lui. Il agite prudemment les fils de la toile de la femelle avec un tressaillement répété qui incite la femelle à devenir plus amicale. Il ne faut pas se tromper de vibration. L'offrande du butin permet alors de distraire la femelle pendant que le mâle se dispose pour un accouplement très bref, pendant que l'araignée femelle déballe la proie emmaillotée dans la soie. Le mâle peut accomplir sa courte prouesse, puis prendre le large, laissant la femelle profiter de son distrayant cadeau.
Et bien d'autres animaux participent à des cadeaux nuptiaux, poissons par le martin pêcheur, ou encore pour la sterne bien Pierre Garin, morceaux de foin pour le pika et d'autres animaux. Bref, les choses en amour semblent changer.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette, à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à les ventres de tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Une complainte en volée musicale par Boris Vian. Car maintenant que nous avons examiné la transcendance temporelle des choses de la vie à la lumière de la phénoménologie existentielle et sexuelle, nous avons découvert l'appétit des sujets. Bref, nous avons vu que tout le monde aimait bien l'amour. Car l'amour est la plus incroyable des aventures. Imaginez ces records. La muse-araigne étrusque est le mammifère qui possède le plus petit sexe, avec une longueur de moins de 5 mm. Alors que la baleine bleue est l'animal le plus nanti, avec 2,50 m en moyenne, et on a même vu une baleine bleue avec un pénis de 3,04 m. Parmi les animaux les mieux pourvus, il faut penser au tapir, Côté pénis, avec près d'un mètre de long pour un animal de 200 kilos, à notre échelle, ça correspond à quelque chose de très important. Mais le plus grand est celui de l'érismature, car c'est un oiseau, un canard, qui possède un pénis de 42 cm. Imaginez, ça correspondrait à un humain possédant un pénis de 2,50 m. Bon, évidemment, il n'y a pas que la longueur, les durées sont aussi importantes et la manière de faire. Les serpents, par exemple, ont deux pénis. Quant à la durée d'une étreinte chez les serpents, elle peut durer 24 heures. Chez le putois, c'est déjà pas si mal, avec plus de 3 heures de copulation. Imaginez cela. Mais il n'y a pas que les mâles. La mésange, par exemple, est capable d'obtenir 131 orgasmes à l'heure. 131 orgasmes à l'heure. Et les femelles de chimpanzés ont été observées copuler avec des mâles différents, jusqu'à 8 mâles différents en 15 minutes. Donc vous voyez, les animaux ne pensent qu'à ça. Les hyènes ont le plus grand clitoris du monde en érection, avec plus de 20 cm. Et les femelles se pratiquent dès cunnilingus entre elles, je ne vous dis pas. Les chauves-souris d'ailleurs apprécient aussi les fellations. Donc les hyènes d'un côté, les chauves-souris de l'autre et les mâles de bonobo réussissent à se pratiquer eux-mêmes des autofellations. Les phéromones ont quand même quelque chose de très très important puisque nous le voyons ici, quand l'amour commence, tout est possible, tout est permis, y compris les plus extraordinaires des choses.
You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.
Do you love me? I can really move. Do you love me? I'm in the groove. Now do you love me? Do you love me? Now that I can dance.
Watch me now.
Hey, work, work,
work it out, baby.
Well, you driving me crazy.
Work, work,
just a little bit sober.
Work.
I can mash potato.
I can mash potato.
Do the twist.
I can do the twist.
Now tell me, baby.
Tell me, baby.
Do you like it like this?
Do you like it like this?
Écoutions The Contour. En conclusion, nous voyons que le sexe n'est vraiment pas le propre des humains et que les amours sont aussi tout à fait présents un peu partout. Les animaux sont très portés sur la chose. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune norme dans la nature et que chacun peut s'aimer de tous les moyens possibles. La seule norme dans l'évolution, ne le répétera jamais assez, c'est la diversité des conduites et notamment des conduites sexuelles. Il reste que pour obtenir le consentement de l'autre, évidemment, il a fallu entraîner un foisonnement de couleurs, de chants, de chorégraphies dont tous les animaux ont le secret. Voilà, l'amour est donc une chose délicieuse dont je vous invite à goûter le bonheur tout l'été. Vous pouvez nous contacter en téléphonant au studio ou par l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Nous aurons aussi le plaisir de vous retrouver, comme tous les quatrièmes lundis de chaque mois, à 18h, sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour nous amuser à décortiquer la biologie et toutes les idéologies qu'elle porte. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction est toujours de Hicham Chahidi et nous allons conclure sur la déclaration de Georges Moustaki. Bonne journée à vous, bonne suite et à bientôt de se retrouver.
Je déclare l'état de bonheur permanent. Et le droit de chacun à tous les privilèges. Je dis que la souffrance est chose sacrilège, quand il y a pour tous des roses et du pain blanc. Je conteste la légitimité des guerres, la justice qui tue et la mort qui punit, les consciences qui dorment au fond de leur lit. Civilisation au bras des mercenaires. Je regarde mourir ce siècle vieillissant. Un monde différent renaîtra de ses cendres. Mais il ne suffit plus simplement de l'attendre. Je l'ai trop attendu, je le veux à présent. Que ma femme soit belle à chaque heure du jour, sans avoir à se dissimuler sous le phare, et qu'il ne soit plus dit de remettre à plus tard l'envie que j'ai d'elle et de lui faire l'amour. Que nos fils soient des hommes, non pas des adultes, et qu'ils soient ce que nous voulions être jadis, que nous soyons frères, camarades et complices, au lieu d'être deux générations qui s'insultent, que nos pères puissent enfin s'émanciper et qu'ils prennent le temps de caresser leurs femmes. Après toute une vie de sueur et de larmes et des entre-deux-guerres qui n'étaient pas la paix, je déclare l'état de bonheur permanent. Sans que ce soit des mots avec de la musique, sans attendre que viennent les temps messianiques, sans que ce soit voté dans aucun parlement. Je dis que désormais nous serons responsables, nous ne rendrons de compte à personne et à rien. Et nous transformerons le hasard en destin, seul à bord et sans maître et sans Dieu et sans diable. Et si tu veux venir, passe la passerelle, il y a de la place pour tous et pour chacun. Mais il nous reste à faire encore du chemin pour aller voir briller une étoile nouvelle. Je déclare l'état de bonheur permanent.